Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à tous et à toutes, au micro Florence Westgaard. Alors que la conférence sur les océans se déroule au siège des Nations Unies à New York, l'invité d'Escale cette semaine est l'Espagnol Álvaro de Marichalar. Cet entrepreneur, navigateur et activiste de l'environnement parcourt les mers et les océans depuis plus de 30 ans. 3 tours du monde en jet ski et une riche expérience qui le pousse à plaider pour la protection de la nature. Lors de son passage à New York, Jérôme Longuet l'a rencontré.
Álvaro de Marichalar, bonjour.
Bonjour.
Álvaro de Marichalar, donc vous avez plusieurs casquettes et vous êtes ici à l'ONU aujourd'hui, notamment pour sensibiliser sur les océans et la pollution marine, entre autres, et l'avenir de la planète. Alors, d'abord, Álvaro de Marichalar, si on le présente aujourd'hui, vous êtes qui ?
Navigateur, survivor, quelqu'un qui adore la mer et qui a compris que la mer est en péril et qui veut aider un peu à soutenir notre petite maison, notre petite planète très faible, qu'on entretient très très mal à mon avis.
Alors ça, ces observations, elles viennent de quels constats, de quelles expériences ?
D'expérience de navigateur depuis 1982. J'ai fait 3 tours du monde en tout avec 39 expéditions. Et j'ai vu beaucoup des choses qu'on ne devrait pas voir, c'est-à-dire la pêche illégale, tous les plastiques sans arrêt, toute la pollution, la pêche avec la dynamite même. C'est des choses très tristes pour quelqu'un qui aime la mer. Nous, les navigateurs, on aime beaucoup la mer. Mon bateau, c'est très petit, c'est la taille d'un petit défunt. Alors, je sens la mer très proche. Je connais la mer bien parce que je suis très, très près de l'eau. Et alors, tout ce qui se passe dans la mer, ça m'est fait très triste, quoi. Ça me touche beaucoup. Alors je crois que l'éducation, c'est la seule manière d'arrêter tout ça. C'est la seule manière de créer les consciences pour soutenir notre planète d'une manière soutenable et de ne pas polluer sans arrêt, sans contrôle, comme on fait maintenant.
Alors vous nous parlez de beaucoup d'aventures marines avec des embarcations diverses. J'ai cru comprendre qu'il y avait des bateaux, mais il y a des fois aussi un jet ski.
Oui, mon bateau, c'est un petit jet ski, on l'appelle jet ski, c'est un scooter de mer. Et c'est la seule embarcation que j'utilise depuis 1982. Je préfère l'appeler embarcation, petit bateau, parce que les trucs du jet ski, bon, c'est une marque de Kawasaki. C'est comme parler de les caméras photo et parler des Kodak, non ? Et aussi, ça a une image un peu pour les gens qui louent dans la plage un quart d'heure. Moi, j'utilise ces petits bateaux comme un bateau d'exploration pour aller de Hong Kong à Tokyo, ou de Rome à New York, ou de Barcelone à Ukraine, à Odessa. Là, je viens de finir tous les tours de les Caraïbes. Je fais la même expédition qui a fait les premiers Européens qui ont découvert la Floride, Juan Ponce de León, en 1513. Alors, j'ai fait Puerto Rico, République Dominicaine, Turks and Caicos, Bahamas, Floride. Après, je suis allé de là à Mexique, par Cuba, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, pour voir aussi l'endroit où Vasco Núñez Balboa a découvert le Pacifique, aussi en 1503. Et j'ai continué après jusqu'à la Colombie, Venezuela et de nouveau jusqu'à Porto Rico. 7500 milles nautiques, 3 mois d'expédition dans 3 étapes différentes. Ce sont des expéditions un peu compliquées, un peu risquées, mais aussi très jolies parce qu'on se rend compte de la vérité de la mer. On voit tout et on sent tout là, avec ces petites embarcations.
Alors, je suppose que ça nécessite une logistique, une assistance particulière. Vous n'êtes pas seul quand vous faites cela ?
Je fais tout seul, tout à fait seul. J'ai des jerrycans de sens qui me permet une autonomie de 150 000 nautiques. Comme ça, je dois choisir des parcours où il y a l'essence, il y a les moyens de faire les plans avant 150 000 nautiques. Ça, c'est environ 280 km, sauf l'Atlantique. Quand je fais l'Atlantique, j'avais un bateau soutien, bien sûr. Depuis les îles Canaries Antigua, je fais Rome, îles Canaries Antigua avec un bateau soutien et Antigua, Miami, Miami, New York. Ça a été 10 000 milles nautiques, 65 jours. Et sinon, de Hong Kong à Tokyo, par exemple, j'étais tout à fait seul, pas d'assistance du tout. Là, le tour de Caraïbes que je viens faire, pas d'assistance. Et oui, c'est vrai que On risque pas mal, parce que Panama, par exemple, ça a commencé à brûler. Grâce à Dieu que le vent m'a poussé à terre et je pourrais sauver ma vie. Mais et que j'avais un extincteur assez puissant. Enfin, on risque, les gens qui me voient apparaître comme ça, ils ne croient pas, surtout les pêcheurs, les militaires aussi, bien sûr. Mais ils me connaissent déjà, je fais ça depuis 35 ans. Et ils m'aident beaucoup, ils me donnent beaucoup de soutien et de bonne énergie. Et à la fin, on est en mer, c'est pas important la taille du bateau, c'est la solidarité des navigateurs. On est tous frères et sœurs. Et ça, c'est les grands tresseurs d'aller en mer. Et sentir qu'on est des humains solidaires et des humains qui essayent de survivre. Qu'on est dans un endroit très dangereux. Ce n'est pas important si on est dans un bateau de 200 mètres, dans un grand bateau de guerre ou dans un petit scooter de mer. On est toujours en péril et c'est pour ça qu'on est toujours en train et prêt à aider l'autre.
À terre, il y a quand même des gens qui vous soutiennent financièrement. Comment vous financez vos opérations et c'est parti de quoi? Il y a 35 ans, comment vous êtes arrivé à vous dire, ben voilà, il y a un jet ski ou un scooter des mers ou une petite embarcation, selon qu'on l'appelle. Comment vous vous êtes dit, eh ben voilà, je vais traverser, j'ai besoin d'aide, je veux faire quelque chose de particulier. Est-ce que c'était que l'exploit sportif au début?
Oui, c'était sportif, mais aussi l'expédition. L'amour à l'expédition, à connaître. Moi, j'ai commencé à naviguer à Saint-Sébastien quand j'étais très jeune. Et je suis de Pampelune et à Saint-Sébastien, moi j'étais toujours surprise pour ce que j'appelle le mystère de l'horizon bleu. Qu'est-ce qu'il y a après l'horizon bleu? Alors je faisais beaucoup la voile et tout, mais quand j'avais 17 ans, j'essayais en scooter de mer et j'ai décidé de naviguer pour utiliser ce petit bateau comme un véhicule d'exploration, de voyage, de connaître la mer, de connaître moi-même et de faire des expériences très très importantes. Très limite, des records du monde aussi pour mon pays, mais aussi pour honorer notre compagnon européen qui sont risqués leur vie dans le 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, et suivre ce parcours et parler un peu de ce qu'ils sentaient et ce qu'on voit maintenant, pourquoi ils risquaient leur vie pour aller connaître des autres endroits très loin de l'Europe et aussi comme ce qu'on a ruiné maintenant. Avec la culture de le profit, la culture de l'argent horrible, et on ruine la morale des gens et aussi les possibilités de survivre de les océans. Alors oui, tout est venu de l'expérience. C'était une expérience tellement sympa, tellement jolie, et tellement complète et tellement importante finalement que chaque an, je fais une ou deux de ces expéditions. Surtout quand il a des vacances, je suis un petit entrepreneur, j'ai des compagnies en Europe, mais mon passion, c'est la navigation. Et oui, je cherche et je trouve des sponsors qui aident mes expéditions. Des fois, je trouve suffisant, des fois, je ne trouve pas. Quand je ne trouve pas suffisant, je produis des documentaires, j'écris des livres, je fais des conférences et j'essaye de me financer après l'expédition. C'était fait. Moi, je ne permets pas que les sponsors payent avant. C'est-à-dire, moi, je permets seulement les sponsors à payer après que j'ai réussi mon exploit. C'est-à-dire que je prends les risques financiers aussi. Et moi, je trouve que ça, c'est très important parce que prenez l'aventure avec les risques financiers aussi, ça donne le concept de l'aventure totale. Et moi, je crois que c'est bien. Et moi, dans mes conférences, surtout dans les universités, les écoles, j'essaie de convaincre les gens de prendre les risques. C'est très important. Prendre risque veut dire avancer, veut dire civilisation, veut dire humanité. On doit prendre les risques pour avancer. Et maintenant, le grand risque qu'on doit prendre, c'est essayer de produire moins plastique, moins pollution. Essayer d'aimer plus notre petite planète et comprendre qu'il va mourir si on continue à les traiter comme ça.
Alors il y a certains qui vont peut-être vous rétorquer que ok, la pollution c'est un vrai problème, les plastiques en mer vous les avez observés, trop pêcher, surpêcher c'est également un problème, mais vous traversez les océans avec votre petite embarcation, mais elle marche avec de l'essence donc elle pollue. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui pourraient vous critiquer sur votre démarche? Oui, développement durable, mais enfin, quand même, à l'arrivée, il y a pas mal de pollution pour traverser les océans.
Bien sûr que, par exemple, Greenpeace ou Sea Shepherds ou toutes les organisations qu'on travaille avec pour lutter contre la pêche illégale et tout, on est des propulsions mécaniques, non, des propulsions à essence. Là, par exemple, j'ai planifié de faire les tours de l'Australie avec l'essence qui vient de les plastiques recyclés. Mais c'est vrai que pour moi, ça sera mieux d'avoir un petit bateau à la voile ou avec l'énergie solaire. Mais c'est vrai que ce petit navire que j'utilise, il a un moteur de combustion. Mais c'est aussi vrai que ça accomplit toutes les régulations de Californie pour l'année 20 ou 22 déjà, des zero emissions, non, depuis beaucoup de temps. Et c'est probablement les bateaux qui consomment et qui polluent le moins. Mais bien sûr, je préférais d'avoir un bateau à énergie peut-être ionique qui pourrait me transporter dans la mer sans aucune pollution, ça c'est clair.
On est à l'ONU, vous êtes venu ici donc à l'avant-veille d'un grand sommet sur les océans du 5 au 9 juin, avec la journée des océans le 8. Quel est le prétexte, quelle est aujourd'hui la justification et votre lien avec l'ONU ?
Je suis venu depuis quelques années à des conversations surtout sur les océans, sur le développement soutenable. Et aussi, ça m'intéresse beaucoup, la paix entre les cultures. Comprends qu'on a des cultures différentes, mais comprends aussi que notre culture différente, il peut être ami. Ça, c'est une autre leçon que j'ai appris à la mer. En mer, vous arrivez de Rome, du cœur du christianisme. Je suis arrivé par exemple à Tunisie, où j'ai visité les synagogues les plus anciennes du monde. Et après, je suis continué à l'Algérie, j'ai visité les mosquées et tout. Et on comprend que la politique nous sépare beaucoup, mais les gens, les planètes, les pays, on est très pareils. Et ça m'intéresse beaucoup de parler de paix, mais la vraie paix. Pas la paix imposée par les politiciens, mais la paix des gens. On ne veut pas se confronter avec, généralement avec aucune personne. Ce qu'on veut, c'est vivre en liberté et tranquille. Et on respecte absolument tout, quoi. La majorité des gens adorent les autres cultures. Toutes les cultures enrichissent l'humanité. Et ça, c'est très important de les comprendre depuis l'aspect historique. Parce que si on ne connaît pas l'aspect historique de nous-mêmes, on ne peut pas comprendre les présents, on ne peut pas dessiner les futurs. Et l'aspect écologique aussi. Parce qu'à la fin, c'est tout la même chose. C'est respect. Ça, c'est la mot-clé, respect. Respect et honneur. Cette parole un peu vieille peut-être, mais l'honneur veut dire vivre en liberté sans abîmer personne et sans abîmer notre maison, notre planète. Et ça, c'est plus facile de ça qu'on pense. Mais bien sûr, pour ça, on doit être très courageux et reconnaître que le problème est la culture de profit, profit, profit. La culture de l'argent, c'est une culture qui détruit la morale, qui détruit les planètes. Et on doit penser que l'argent, c'est important, que l'entreprise, c'est important, mais qu'on doit vraiment être plus intelligent que ça qui vient de l'argent même. Que ce, à la fin, on a vu toute l'histoire, destruction.
Juste pour être vraiment concret, aujourd'hui, vous êtes à l'ONU pour quelle raison? Quelle est officiellement la raison de votre venue?
Moi, je crois que l'ONU a fait très, très bien d'organiser cette journée en juin pour les océans. L'océan, c'est le plus important. Il y a 70% de surface d'eau et on doit connaître, respecter et aimer les océans. C'est pour ça que c'est très intelligent d'organiser ça en juin, parce que ça va être très pratique, très important pour la culture et pour savoir où on est. Je dis toujours, on est dans une petite goutte d'eau, très petite, perdue dans l'univers infini. C'est comme notre navire spatial. Et Dieu, le bon Dieu, le créateur, il a créé la nourriture, il a créé les pilotes de ce navire, il a tout créé. Et nous, au lieu d'être tranquilles dans notre navire qui se promène par l'univers, on détruit notre navire, c'est pas très intelligent. Alors, le summit de l'océan va, je crois, servir à connaître plus où on est, qui on est, les océans. Le plus important.
Alvaro de Marie Chalard, merci.
Merci à vous.
Et c'est avec l'Espagnol Alvaro de Marie Chalard, entrepreneur, navigateur et activiste de l'environnement, que se referme ce magazine Escale. Un magazine préparé par Jérôme Longuet et présenté par Florence Westgaard avec la collaboration de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.